Moi, Léo, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et vous, en train d'écouter la radio en français. Continuez comme ça, là. Un message de Léo
et du gouvernement du Québec.
Fan de rock progressif. Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découverte musicale, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 6 mars 2026. Hier matin, le maire de Québec, Bruno Marchand, accompagné de la conseillère du district Saint-Roch-Saint-Sauveur, Eleni Lepage, présente aux médias le plan d'action 2026-2029 Saint-Roch, un centre-ville vivant. Durant les 4 prochaines années, la ville compte investir 80 millions de dollars pour améliorer la qualité de vie des résidents du quartier. La version préliminaire du plan avait été dévoilée au début 2026. Elle se base sur 4 axes, soit la sécurité, la cohabitation, la qualité du milieu de vie et plus de 40 recommandations. Le maire Marchand a débuté son allocution en rappelant que le résultat final du plan d'action est le fruit d'une collaboration et d'un travail d'équipe entre les résidents, les organismes et la ville. Retrouvez sur notre site web cicayafm.org le reportage sur cette annonce. Les coop de l'information, dont fait partie le journal Le Soleil, figurent parmi la courte liste des finalistes au INMA Global Media Awards, un concours international qui célèbre l'excellence et l'innovation dans l'industrie des médias. Sélectionné dans la catégorie « Meilleure initiative pour faire croître les abonnements volets médias locaux », les coop de l'information y sont honorés pour leur projet d'amélioration des plateformes numériques et pour le lancement d'une campagne promotionnelle qualifiée d'audacieuse. Elles se retrouvent ainsi aux côtés des médias réputés de l'Allemagne, la Suède, la Norvège et les États-Unis. Le syndicat canadien de la fonction publique lance une mise en garde au sujet de l'intention de Christine Fréchette, candidate à la chefferie de la coalition Avenir Québec, de ranimer le vieux modèle défaillant des soi-disant partenariats publics-privés ou PPP, cette fois-ci pour les bâtiments du réseau scolaire du Québec. Le SCFP, qui détient une expertise de plusieurs décennies sur le sujet, souligne qu'il s'agit d'une parfaite aberration. Essentiellement, selon le SCFP, Mme Fréchette propose de confier à des investisseurs privés non seulement la construction, mais aussi la propriété et la gestion des écoles du Québec. Mireille Dion a été nommée au poste de directrice générale du Centre des services scolaires de la Capitale. Madame Dion occupait cette fonction à titre intérimaire depuis juin 2025. Son parcours professionnel dans le milieu de l'éducation a débuté il y a près de 30 ans, alors qu'elle entamait une carrière d'enseignante de français au secondaire. Madame Dion est reconnue pour ses habiletés communicationnelles, sa capacité à instaurer un climat de travail harmonieux et son excellente analyse des enjeux. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de Cicaya 88.3 FM et cicayafm.org.
Toute simplicité. Imagination me menait si loin qu'il m'arrivait parfois qu'on me refusât la vente
de telle ou telle ferme, et ces refus étaient tout ce que je voulais. Ce qui est sûr, c'est que jamais je ne me brûlais les doigts à devenir effectivement propriétaire. Le plus proche que je fus d'être propriétaire fut au moment d'acheter la ferme de Hollowell, alors que j'avais commencé à trier mes semences et à rassembler du matériel pour construire la brouette grâce à laquelle j'allais la faire tourner ou l'emporter au diable. Mais avant que le vendeur m'eût donné l'acte de propriété, sa femme, tout homme a une telle femme, changea d'avis et voulut la garder. Il m'offrit 10 $ pour que je le libère de son engagement. En cet instant précis, à dire la vérité, ma fortune totale ne dépassait pas 10 cents. Et la question de savoir si j'étais alors cet homme qui possédait 10 cents, ou bien cet autre qui possédait une ferme, ou encore ce troisième qui possédait 10 $ ou les trois à la fois, était au-delà de mes capacités arithmétiques. J'ai laissé cependant ce couple garder ses 10 $ et sa ferme, car je l'avais déjà mené suffisamment loin. Ou plutôt, pour être généreux, je revendis la ferme à cet homme au prix exact où je l'avais acheté, et comme il n'était pas riche, je lui fis un présent d'une valeur de 10 $ et il me restait encore mes 10 cents, mes semences et de quoi me construire une brouette. Je découvris ainsi que j'avais été un temps un homme riche sans que cela ne causât le moindre dommage à ma pauvreté. En revanche, je gardai le paysage et j'ai depuis emporté avec moi l'intégralité de ses rendements annuels sans le secours d'aucune brouette.
Bienvenue en toute simplicité.
Aujourd'hui, on va finir, on va poursuivre, disons, la série d'émissions qu'on a eues sur Thomas de Conin. La semaine dernière, on a eu une très belle entrevue que je vous recommande avec Jean Desi qui avait fait sa thèse de maîtrise avec Thomas de Conin. Et la semaine d'avant, ben, j'en avais parlé un peu parce que, malheureusement, M. de Conin, qui n'était pas jeune, il était dans les 90 ans, est décédé il y a une dizaine de jours, deux semaines, je pense. Alors, étant donné que notre émission est une émission qui porte beaucoup sur la philosophie, je pensais que c'était une bonne idée de souligner l'œuvre de M. de Conin, qui est un philosophe important au Québec. Jean Desi nous en a l'a mentionné la semaine dernière. C'est quelqu'un qui était surtout dans l'enseignement. Il a enseigné, je pense, 50 ou 60 ans à l'Université Laval. Il a suivi de nombreux élèves dans leur thèse de maîtrise et de doctorat. Mais il a publié beaucoup. C'est un homme qui n'était pas flamboyant, mais un grand philosophe avec une culture philosophique incroyable. Alors, je vais vous lire quelques extraits de Thomas de Conin aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai ma petite revue de presse, mes lectures de la semaine, mes activités. En fin de semaine dernière, on a eu le festival, la fête des semences, en fait. Et cet événement-là, je l'aime beaucoup. Vous notez ça sur votre calendrier, c'est toujours la première fin de semaine de mars à chaque année. Et c'est une façon d'entrer dans le printemps, de sortir de l'hiver et d'entrer dans le printemps. Et on rencontre plein de gens intéressants. Et aussi, si vous jardinez, bien, c'est l'endroit idéal là, pour aller soit acheter des semences ou acheter d'autres du matériel de jardinage, des engrais, fertilisants, compost, etc. Et les conférences. J'ai assisté, je pense, j'ai été les deux jours, samedi et dimanche. J'ai dû assister à 6 ou 7 conférences. On est vraiment entré dans la permaculture que j'aime beaucoup. La permaculture, en même temps que c'est une façon de cultiver, c'est aussi une philosophie de vie qui est très près de ce qu'on parle en toute simplicité. C'est près de la simplicité volontaire, je dirais. Alors, j'ai deux conférenciers que nous allons avoir à l'émission. Peut-être la semaine prochaine, en tout cas dans les semaines qui viennent, parler de la philosophie et le jardinage. Entre autres, Jean-François Pronovost, en tout cas c'est de la ferme L'Écoumène, j'oublie son nom de famille, qui va peut-être la semaine prochaine. Alors, il faudra suivre notre émission la semaine prochaine, si vous voulez l'entendre. De toute façon, toutes nos émissions sont disponibles en ligne, soit sur le site de CKIA ou soit sur le site des Amis de la Terre, dans la section Simplicité volontaire. Alors, dans mes lectures de la semaine, il y avait dans le Devoir d'hier, jeudi 5 mars, le contact avec la nature fait du bien au cerveau, réduction du stress, apaisement physique, clarté émotionnelle. Une nouvelle étude met en lumière de nombreux bienfaits de la nature. On le savait déjà, mais c'est toujours intéressant de se le faire rappeler. On sait qu'une escapade en nature est extraordinairement salutaire, autant psychologiquement que physiologiquement. Elle entraîne un apaisement général qui est à la source du bien-être ressenti. Une étude publiée dans Neurosciences In Behavioral World Reviews met en lumière les changements qu'induit une telle expérience dans le cerveau qui expliquerait les bienfaits d'une exposition à un environnement naturel. Cette recherche a consisté à passer en revue 108 études d'imagerie cérébrale en faisant appel à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, à l'électroencéphalographie et à la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle, qui examinait l'effet de la nature sur les fonctions cérébrales. Par cette analyse, les chercheurs ont relevé une cascade de changements cérébraux qui mènent à cet état de bien-être caractéristique. Tout commence par les stimuli qui atteignent nos sens. Ce que nous voyons, entendons et ressentons quand nous sommes dans la nature est plus facile à traiter pour le cerveau que les multiples stimuli simultanés et incessants, bruit, lumière, ligne droite, en milieu urbain. Les arbres, les vagues et les sons des oiseaux présentent tous des structures simples qui se répètent, soit des formes fractales, le tronc des arbres qui se divise en branches et qui se ramifie en plus petites branches, et ainsi de suite. Les vagues qui se succèdent et qui sont identiques aux premières, mais de plus en plus petites. Or, le traitement de ces motifs répétitifs et aux contours souples requiert moins d'efforts mentaux que le traitement des formes très carrées des bâtiments de la ville. Et comme ces motifs fractales sont esthétiquement plaisants, ils sont aussi très apaisants, souligne d'entrée de jeu Mar Estarellas, chercheur postdoctoral à la division de psychiatrie sociale et transculturelle du département de psychiatrie de l'Université McGill. Alors, pour ceux qui s'intéressent, dans le Devoir de jeudi, page A8, jeudi 5 mars, le contact avec la nature fait du bien au cerveau. Un autre texte dans le Devoir de jeudi, en fait, c'est une annonce, là, que, ben, c'est-à-dire que je vous le présente comme une annonce. C'est un texte sur le Festival international de poésie qui va avoir lieu en fin de semaine. En fait, ça commence aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui et demain, et dimanche, à la Maison de la littérature et à la Charpente des Fauves du 5 au 7 mars. Festival international de poésie de Québec. Les langues minoritaires seront à l'honneur lors du premier Festival international de poésie de Québec à compter de ce soir. C'est en version originale que les auteurs non francophones de la programmation présenteront leurs textes, accompagnés de sous-titres sur la scène de la Maison de la littérature et à la Charpente des Fauves. Alors, pour ceux qui aiment la poésie, pour ceux qui s'intéressent, c'est en fin de semaine. Aussi, un autre texte sur notre patrimoine architectural qui est toujours menacé. C'était dans le Devoir de mercredi le 4 mars. C'est les chroniques régulières de Jean-François Nazeau sur le patrimoine architectural du Québec. Puis là, on parle de le monastère de Berthierville. Un promoteur souhaite démolir l'ensemble persiste malgré ses revers en justice. Un immense monastère à vendre pour seulement $1. Derrière cette offre spectaculaire, publicité ces jours-ci, se cache une saga judiciaire et politique qui ne cesse de s'alourdir. En fait, le propriétaire a acheté le terrain. Il n'est pas intéressé par le monastère, il veut le démolir, mais il y a le ministère de la Culture qui intervient là-dedans. En tout cas, c'est une suite de textes de monsieur qui publie régulièrement, là, Jean-François Nadeau, que j'aime bien, là, sur notre patrimoine bâti. Des beaux bâtiments, de la belle architecture qui disparaît, puis que ce genre d'architecture-là, ça ne reviendra pas. Alors, c'était dans le Devoir de mercredi. Dans le Devoir de lundi, c'est une espèce de compte-rendu de lecture d'un livre qui s'appelle... ce qu'on trouve dans le sang, dans la cendre, méditation sur le sens et le courage dans un monde en effondrement. C'est un livre de Nicolas Langelier, publié cette année. Notre humanité face à la fin du monde. Nicolas Langelier se demande comment continuer à vivre devant la disparition accélérée du vivant. C'est un questionnement qui mérite d'être approfondi. Effectivement, c'est une réalité actuellement. Puis lui, il va plus loin. Il est rendu déjà dans l'adaptation à un autre monde. Alors, à mesure que se fissure le mythe du progrès, et que les dérèglements climatiques s'intensifient, l'horizon d'une fin du monde ne relève plus de la fiction. C'est dans cette zone d'inquiétude que Nicolas Langelier publie « Ce qu'on trouve dans la cendre », un essai à la fois lucide et grave. Le journaliste et éditeur y refuse le déni et prend au sérieux la possibilité d'un basculement irréversible. Que signifie vivre, aimer et transmettre à ses enfants lorsque l'idée même d'avenir chancelle? Au milieu des ruines possibles, il cherche une manière de rester humain. On ne sort pas indemne de ce livre, au titre évocateur. Plus qu'un signal d'alarme, il entraîne une véritable remise en question. Dans 25 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais selon lui, inévitablement, nos structures politiques, économiques, industrielles et sociales pourraient être profondément ébranlées. Le coût humain serait immense à l'échelle des milliards de vies. À la base de tout ça, il y a une prise de conscience personnelle de la situation dans laquelle on est, confie-t-il au téléphone. Ce qui s'amorce chez lui, ce n'est pas un soudain effroi, mais une lente accumulation. Fondateur du magazine Nouveau Projet et de la maison d'édition Atelier 10, Langelier, ne se présente ni en expert ni en scientifique. Il se décrit comme un citoyen attentif qui lit, observe et tente de relier les points. C'est une addition de lectures, de rapports scientifiques, de données crédibles, des points qui se sont ajoutés dans mon tableau. Ça mérite d'être lu. Il faut faire attention, je pense, avec les... Quand on essaie d'anticiper l'avenir, on n'est jamais certain de rien, mais c'est quand même une bonne idée de réfléchir là-dessus. Et en tout cas, je vous recommande ce texte-là dans le Devoir, ou vous pouvez lire son livre, là, Ce qu'on trouve dans la cendre. À la fin de l'article, on dit des propos qui rappellent la sobriété stoïcienne de Marc Aurèle, qu'il convoque d'ailleurs au fil des pages. Il s'enracine dans une conviction simple. L'histoire enseigne au crépuscule des civilisations surgissent parfois des communautés capables de tenir, de retisser du lien et de préserver l'essentiel à l'heure du grand basculement. Marc Aurèle, philosophe que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Il y a un beau livre d'ailleurs de Frédéric Lenoir qui s'appelle « Le rêve de Marc Aurèle », si vous voulez apprendre à connaître Marc Aurèle. C'est un très beau texte que je vous recommande. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va parler de Thomas de Coninck.
Picoté par les blés, foulés tirer la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent
C'était Robert Charlebois, le poème d'Arthur Rimbaud que Charlebois a mis en musique. Franchement, je trouve qu'il a bien réussi. C'est vraiment beau, cette pièce de musique-là. Avant ça, on avait eu Richard Séguin. C'était Tout près de l'étang, de son album Le retour à Walden. Et en début d'émission, comme à l'habitude, justement, je vous ai lu un extrait d'Henri David Thoreau, un extrait de Walden d'Henri David Thoreau. Avant de passer à M. de Coninck aussi, dans les autres lectures que je vous recommande, il y a le magazine, le nouveau numéro, le dernier numéro de Philosophie Magazine qui vient d'entrer en kiosque. Toujours intéressant pour ceux qui s'intéressent à la philosophie. Je vous recommande cette revue-là. Et le thème du monsieur, le numéro qui est en kiosque, c'est le numéro de février. Comment recommencer en amour, au travail, dans la vie? C'est une réflexion sur l'éternel retour, le recommencement. Justement, dans le petit cahier du milieu, on a un texte de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, où on parle justement de l'éternel retour là, de Nietzsche. On a aussi, on a toujours un philosophe qui est mis un peu en évidence, là, et c'est le philosophe arabe Averroès, que j'ai pas lu le texte encore, là, la semaine prochaine je vais vous en parler, Averroès, A-V-E-R-R-O-E-S, est né en 1126, il y a exactement 900 ans, à Cordoue, ce commentateur passionné d'Aristote a su faire dialoguer philosophie et religion, raison et foi, une démarche dont se revendiquent aujourd'hui nombre d'intellectuels arabes contemporains. On pourrait dire que même M. de Coninck est dans cette tradition-là, parce que M. de Coninck, comme Jean Désy le mentionnait, c'était quelqu'un aussi qui avait la foi et qui était chrétien, mais demeure toujours philosophe, donc avec c'est pas directement dans ses textes, il ne parle pas de religion dans ses textes, c'est vraiment des textes de philosophie. J'ai retenu là, quelques livres que j'ai apportés avec moi. Monsieur de Coninck a parlé beaucoup, par exemple, de dignité, des très beaux textes sur la dignité. Il a parlé beaucoup d'éducation, il a parlé d'écologie, et il a parlé aussi l'idée d'ignorance. Ça, c'est très socratique. Socrate disait que les humains, on est ignorants et faut pas s'en faire avec ça. C'est notre réalité humaine. Sauf que lui, il disait ce qu'il fallait éviter, c'est la double ignorance. Être ignorant, qu'on est ignorant. Donc, ça prend de l'humilité, réaliser qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais en même temps, Socrate recommandait à ses disciples de devenir philosophe, c'est-à-dire amant de la sagesse. Donc, on réduit notre ignorance à mesure qu'on pratique la philosophie. Alors, je vous lis quelques extraits de ce livre qui s'appelle « La nouvelle ignorance ou le problème de la culture ». Il existe en réalité deux formes d'ignorance qu'on pourrait qualifier de nouvelles, mais qui sont diamétralement opposées. La première ouvre et libère, la seconde emprisonne et tue. La première, qu'il faut célébrer, se traduit par de nouvelles interrogations suscitées par de nouvelles découvertes. Alors ça, c'est l'ignorance de base des humains dont Socrate parlait. Elle est le moteur de toutes les avancées du savoir. D'ailleurs, ça, on dit qu'en philosophie, la philosophie commence par l'étonnement. C'est comme des enfants qui s'étonnent devant les choses. C'est le début de la philosophie. Elle est le moteur de toutes les avancées du savoir. La seconde fait au contraire vivre dans l'illusion qu'on sait alors qu'on ne sait pas et s'apparente à ce que Platon appelait la double ignorance, dénoncée et combattue jadis sous sa forme primitive par Socrate. Elle est revenue aujourd'hui en force, à l'instar de ses anciennes maladies infectieuses dont les bactéries parviennent à s'adapter et à résister aux remèdes les plus puissants et dont on constate aujourd'hui les grands retours. C'est cette dernière qui est notre sujet, que nous appelons, pour faire court, la nouvelle ignorance. Mais si elle a le caractère d'une résurgence, qu'a-t-elle à proprement parler de nouveau? Déjà, on reconnaissait en la double ignorance la plus grave et la plus endémique d'entre les ignorances, la plus farouchement résistante, la cause de tout ce qui se fait de mal. Et plus les sujets en jeu sont importants, plus elle est malfaisante et honteuse. Car non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais tout en les ignorant, tu crois les savoir, disait Socrate à Alcibiade. Aussi, tu cohabites, mon pauvre ami, avec la pire des ignorances. C'est ton propre discours qui t'accuse et toi-même. Et voilà pourquoi tu te jettes dans la politique avant d'avoir été éduqué. Elle est la cause de toutes les erreurs auxquelles notre pensée à tous est sujette, car elle définit l'amasia, la bêtise, l'apaideusia, l'inculture, de ces prisonniers qui, enchaînés depuis longtemps au fond d'une caverne, y sont devenus experts en nombre et contents de l'être à force de ne rien connaître d'autre. Alors ici, on fait référence à la caverne de Platon, qui est la réalité des humains, dans le fond, qu'on vit dans une caverne et on voit des ombres, on est victime d'une illusion. Et alors, c'est ça, il dit que, dans le fond, les gens qui sont ignorants de leur ignorance, mais ils sont des experts des ombres. Le sage ou le philosophe, il sait qu'il y a des choses qui lui échappent. Ce qui est nouveau, ce sont les formes inédites, plus redoutables qu'elles rêvaient aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est l'esprit d'abstraction dont notre puissance technicienne décuple désormais l'influence. Ce qui est nouveau, c'est l'autodestruction universalisée de la culture qui a pour corollaire la violence. Car l'alternative, logos violence, est inéluctable. Il n'y a pas d'autre voie que celle ou bien de la culture ou bien de la violence. Les Grecs en ont fait la démonstration. L'expérience de millénaires le corrobore. Dans la mesure où le logos fait défaut, la violence croît. Le logos, c'est la raison. Le vide, l'ennui, l'indifférence à la vie, le fanatisme qu'entraîne la destruction de la culture ont des conséquences incalculables. Le paradigme a été fourni par Auschwitz. Le Kosovo et autres, on parle, il se fait référence au Kosovo parce que ce livre-là date 2000, La Nouvelle Ignorance. Et les autres drames moins médiatisés, mais aussi atroces, de la fin du 20e siècle seront à coup sûr suivis d'autres calamités humaines du même ordre, aussi sûrement que les tueries, les tortures et les génocides du Rwanda et de la Bosnie ont suivi ceux du Cambodge et les goulags soviétiques et chinois, même si les idéologies meurtrières ou les prétextes couvrant la haine peuvent parfois différer du tout au tout dans leur formulation. La cause profonde de la culture de la mort dans laquelle nous sommes est l'ignorance de l'humain et de sa dignité. Alors oui, on revient avec la dignité qui est un thème important pour M. de Koninck. Tant que n'en aura pas pris vivement conscience, les atrocités et les catastrophes humaines iront croissant. Tant que la cause durera, que la nouvelle ignorance, en somme, ira s'aggravant. Ses effets se reproduiront et s'intensifieront. Alors, on va un peu plus loin. On parle aussi, il fait un peu, on voit qu'il fait déjà référence à les nouvelles technologies, on pourrait dire l'intelligence artificielle déjà, là, il voyait ça poindre. Alors, il dit « Aucune époque n'a accumulé sur l'homme des connaissances aussi nombreuses et aussi diverses que la nôtre. Aucune époque n'a réussi à présenter son savoir de l'homme sous une forme qui nous touche davantage. Aucune époque n'a réussi à rendre ce savoir aussi promptement et aussi aisément accessible. Mais aussi, aucune époque n'a moins su ce qu'est l'homme. Ses propos de Heidegger faisaient écho à ceux de Scheller, si souvent cités et pour cause. Jamais dans l'histoire telle que nous la connaissons, l'homme n'a été autant qu'aujourd'hui un problème pour lui-même. Les anthropologies scientifiques, philosophiques, théologiques font preuve d'une entière indifférence réciproque. En outre, si précieuses qu'elles puissent être, les sciences spéciales, toujours plus nombreuses, qui ont trait à l'homme, voilent son essence plutôt que ne l'éclairent. Il manque l'unité que seul peut donner le concret. Ici, on voit, là, il y a un lien avec l'éducation. Je vais vous lire quelques extraits sur une petite plaquette que M. de Koninck a produite qui s'appelle « La crise de l'éducation ». Je vais en parler au retour de la pause musicale, mais c'est un autre de ces thèmes, là, l'éducation. Beaucoup réfléchi là-dessus. Bergson ne pensait pas autrement. Que sommes-nous? Que faisons-nous ici? D'où venons-nous et où allons-nous? Voilà, semble-t-il, des questions essentielles et vitales, les questions d'intérêt suprême qui se présentent d'abord aux philosophes et qui sont ou devraient être la raison même de l'existence de la philosophie. On a cru à tort que pour donner réponse à ces grands problèmes, quelques grands systèmes soient nécessaires au sein duquel cette réponse pourrait prendre place. Alors là, on voit un peu l'idée de l'intelligence artificielle. Solennellement, immuablement, comme un théorème de géométrie, prend sa place définitive dans un livre d'Euclide. C'est là, rejeté au second rang, des problèmes qui devraient être au premier, et c'est rendre la solution de ces problèmes dépendante des systèmes généraux de philosophie. Étroitesse et rigidité s'ensuivent, l'impossibilité de développement progressif et de perfectionnement. Ou je me trompe fort, ou l'avenir appartient à une philosophie qui restituera à ces problèmes la place à laquelle ils ont droit, la première, qui les affrontera de face en eux-mêmes et pour eux-mêmes, tout droit. Un peu plus loin, j'ai ici, oui, c'est ça, on entre dans la technologie, les avancées extraordinaires des sciences et des technologies, pour ne parler que d'elles, devraient stimuler de tels espoirs. La plus étonnante révélation des voyages dans l'espace aura été que l'objet le plus fascinant et beau du système solaire, peut-être même de toute la galaxie, est notre propre planète. Les photos rapportées dans l'espace éblouissent, mais ne sauraient mentir, même si on a peine à en croire ses yeux. La structure la plus étrange que nous connaissions dans l'univers, l'énigme scientifique par excellence dans le cosmos, défiant tout effort de compréhension, c'est la Terre, dont nous commençons à peine à apprécier la splendeur depuis l'espace. C'est pourtant d'elle que de plus en plus de jeunes aujourd'hui désespèrent au point de s'en évader, de s'en évader par une panoplie de moyens, préférant parfois, même parfois la quitter à jamais. Mais pourquoi? Là, ben ça aussi, on s'intéresse à Mars, par exemple, mais dans le fond, l'objet le plus étonnant, le plus magique de l'univers qu'on connaît, c'est vraiment la Terre. C'est la Terre qui devrait être le centre de notre attention. Et aussi, l'objectif principal de nos efforts, c'est de préserver la vie sur Terre, de respecter, de l'apprécier, de l'aimer. Alors, Monsieur de Coninck, j'ai une autre petite plaquette tantôt que je vais vous lire là, sur l'écologie. Monsieur de Coninck a abordé ça. Dernier petit extrait, toujours dans La Nouvelle Ignorance ou le problème de la culture. Le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'extraordinaire unanimité dont il a fait l'objet, par-delà des divergences multiples, sont des acquis majeurs du 20e siècle. On y constate en effet que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Droit au demeurant indivisible. L'article premier précise que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 50 ans plus tard, les propos cités n'ont pas pris une ride et s'avèrent en réalité plus pressants que jamais. Il n'empêche que ce qui frappe tout autant soit leur inefficacité apparente, comme en témoigne le catalogue d'atrocités répertorié par Amnesty International. Les droits humains sont en réalité de plus en plus bafoués dans notre monde. Si les principes de la Déclaration continuent d'être violés dans plus de 140 pays et territoires, c'est que ces principes n'ont guère pénétré les consciences. Comment y remédier? Alors, c'était des extraits de Thomas de Coninck, La Nouvelle Ignorance. Au retour, je vais vous lire deux autres petits textes de M. de Coninck, un sur l'éducation et l'autre sur l'écologie. Alors, c'était des belles vocalises de Nathalie Choquette. C'est un album triple qui s'intitule Lux Eterna. L'album en question, c'est Eterna Celesta. La pièce, c'est une vocalise de Bach qui s'appelle Arioso. Donc, on revient à M. Thomas de Conin, comme je disais tout à l'heure, qui est décédé malheureusement, je pense qu'il avait 92 ans, quelque chose du genre, dans les 90 ans en tout cas, qui est décédé il y a une dizaine de jours. Et c'est pour ça qu'on fait une série d'émissions, là. En fait, c'est la dernière cette semaine, là. Sur M. de Coninck. Et pour ceux qui s'intéressent, on a eu une belle entrevue, j'en parlais plus tôt dans l'émission, là, avec Jean Désy, qui a fait sa thèse une thèse de maîtrise en philosophie avec M. de Coninck. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'était dans l'émission de la semaine dernière. Alors, j'ai une petite plaquette, là, c'est les grandes conférences. Thomas de Coninck, la crise de l'éducation. Le mot crise souffre aujourd'hui d'usure tant qu'on l'emploie souvent. Pourquoi de là parler quand même d'une crise d'éducation? C'est que ce mot riche demeure riche en connotations qui sont d'une rare pertinence pour notre propos, car il vient du grec krisis qui signifie entre autres jugement, décision, choix. Son premier usage moderne est médical. Il désigne le point déterminant où se décide la guérison ou la mort, le tournant vers le meilleur ou le pire. Puis, par extension, de manière plus générale, une étape d'importance vitale et décisive. Il implique, on le voit, une prise de conscience qui peut être salutaire et conduire au meilleur plutôt qu'au pire, pourvu qu'on agisse en conséquence. C'est cet accent optimiste que je voulais retenir ici en dernière analyse. Un optimisme réaliste cependant et par conséquent sensible à la gravité des enjeux et des risques. La crise est rendue manifeste par les maux qui semblent s'aggraver inexorablement en notre monde, dont les ravages de la pauvreté et de la violence, à la croissance des inégalités entre pays riches. Et aux pauvres s'ajoute celle des inégalités sociales criantes à l'intérieur d'un même pays et les formes de discrimination les plus odieuses. Nous sortons à peine du siècle le plus violent de l'histoire quant à l'échelle des massacres et des atrocités perpétrées par des humains contre d'autres humains. Celui dans lequel nous entrons ne s'annonce guère meilleur jusqu'à présent. Un fait saillant de ses débuts et le nombre de victimes innocentes qu'on sent même parfois tuer justement parce qu'elles sont innocentes, comme l'ont fait remarquer de bons journalistes. La violence a désormais pénétré jusque dans les établissements d'enseignement en France, aux États-Unis et chez nous au Québec. Pour familier qu'il soit, ces mots ne cessent de susciter les questions. Pourquoi? Quoi faire? Spécialement inquiétante s'avère en outre la montée apparemment inéluctable d'une pathologie de l'autodestruction, spécialement chez les jeunes. La drogue, criminalité, abandon scolaire ou tout simplement le suicide, cette violence extrême faite à soi-même. D'après l'Institut national de santé publique du Québec, nous sommes parvenus au podium des trois nations industrialisées les plus suicidaires. De 1976 à 2001, le taux de suicide global au Québec est passé de 14,8 par 100 000 habitants à 19,1, faisant des Québécois les Canadiens qui se suicident le plus. Dans les comparaisons internationales, nous nous classions récemment au troisième rang pour le suicide masculin, au sixième pour le suicide féminin. Là, ici, ces données-là, ça a peut-être évolué parce que ce que je vous lis là, ça date de 2007 là, quand même. Chez les jeunes filles de 15 à 19 ans, le taux de suicide aura cependant plus que doublé au cours de la dernière décennie. On ne peut ignorer ici encore et éluder la question « Pourquoi ?» ni non plus, je le répète, cette autre question « Comment y remédier ?» ou mieux encore « Comment prévenir ce cancer-là, spécialement chez les jeunes ?» Au niveau des principes, Kant a dit l'essentiel en une phrase. Le plus grand et le plus difficile problème qui puisse se poser à l'être humain, c'est l'éducation. Car le discernement, dépend de l'éducation et l'éducation à son tour dépend du discernement. Ça, en philosophie, là, le discernement, c'est très important. Développer son discernement, c'est ça dans le fond, quand on fait de la philosophie en se posant des questions, en échangeant, en lisant, en s'interrogeant, on développe son discernement, son esprit critique. Comment sortir de ce cercle le plus difficile des problèmes, précise Ayer Kant, comme en réponse à cette question, c'est que l'homme est un animal, a besoin d'un maître. Mais où prend-il ce maître? Nulle part ailleurs que dans l'espèce humaine. Mais ce maître est, tout comme lui, un animal qui a besoin d'un maître. En d'autres termes, tradition, l'acte de transmettre et discipline sont nécessaires pour que nous puissions devenir ce que nous sommes et parvenir à des sociétés civiles justes. Cette tâche est la plus difficile de toutes, parce que le bois dont l'homme est fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler de bien droit, ajoute Kant dans une formule devenue célèbre. La possibilité du meilleur entraîne la possibilité du pire, selon Lasage. La plus profonde difficulté de toute la doctrine de la liberté, c'est qu'elle est un pouvoir du bien et du mal, dira avec raison Schelling. Déjà Aristote n'avait-il pas observé, à la suite de Platon, que si l'homme a son point de perfection, est le meilleur des animaux, il est aussi, quand il rompt avec la loi et la justice, le pire de tous. Alors, c'était un extrait. C'est une petite plaquette, pour ceux qui s'intéressent. Ça a 67 pages, si vous voulez lire un texte de M. Thomas de Coninck sur l'éducation. C'est le titre, c'est la crise de l'éducation. Ça date de 2007. C'est dans les éditions des grandes conférences et FIDES. Alors, on prend une dernière pause musicale, puis au retour, je vais vous lire un texte qui parle plus d'écologie. De l'album de Jean-Michel Blais qui s'intitule Sérénade. La pièce était Murmure. C'est on peut dire c'est de l'improvisation au piano. C'est très beau. C'est d'ailleurs, je pense, Jean-Michel Blais qui composait la musique là, pour Aura, là, le spectacle qu'il y a à l'église Saint-Roch, que je n'ai pas été voir, que je me promets d'aller voir et que je vous en parlerai quand j'aurai vu. Alors, dernier petit texte, c'est un extrait de « Beauté oblige, écologie et dignité manifeste ». C'est un manifeste que M. Thomas de Coninck a publié avec Jean-François de Raymond. C'est une petite plaquette d'une soixantaine de pages, un manifeste écologique qui est signé par de nombreuses personnalités, des scientifiques, Hubert Reeves, en tout cas des professeurs comme le frère de M. de Coninck, là, Rodolphe de Coninck, en tout cas, il y a un paquet de signataires, des groupes, etc. Et je vous lis un extrait, là, la crise écologique et la nouvelle ignorance. On parle encore d'ignorance, là, encore une référence à Socrate. Sommes-nous suffisamment conscients de la détérioration sans précédent de l'état de notre maison commune, fragilisée par les perturbations climatiques et la menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, dont les conséquences entraînent l'insécurité, les mouvements de réfugiés, des pertes et des préjudices définitifs et qui constitue un sujet de préoccupation pour l'humanité entière. Ici, il fait référence, entre autres, à l'accord de Paris. Puis quand il parle de notre maison commune, ça, c'est une référence, je pense, à l'encyclique du pape François, le pape écologiste, là, qui est décédé, malheureusement, dernièrement, lui aussi. Ce qui est gravissime, c'est le pillage des ressources vivantes, la perte de la biodiversité et l'asservissement excessif des espaces naturels et écosystèmes. Il est désormais acquis que l'être humain est la principale cause du réchauffement planétaire, notamment depuis la révolution industrielle. À cela s'ajoute le fait que l'humanité n'a jamais autant pollué que depuis le début du 20e siècle, comme l'a établi le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, et comme s'en alarme plus de 15 000 scientifiques de 184 pays, signataires d'une mise en garde des scientifiques du monde entier à l'humanité, publiée en 2017 dans la revue Bioscience. Il n'est pas inutile de relever que leur avertissement faisait écho à une mise en garde analogue rendue publique 25 ans plus tôt, en 1992, et qui incluait la signature d'une majorité des récipiendaires du prix Nobel à l'art vivant. Pour la première fois dans l'histoire, avant la défection récente des États-Unis, un accord avait pourtant fait l'unanimité mondialement. Tous les pays, toutes les parties, et non plus seulement les pays industriels, se sont engagés à des politiques de lutte contre les changements climatiques lors de la 21e séance de la Conférence des parties sur le climat, COP21, tenue en décembre 2015 à Paris, sous l'égide de l'ONU. La COP21 a marqué historiquement la convergence multilatérale des États du monde. Elle a décidé de limiter la hausse des températures au-delà du seuil critique de 2 degrés Celsius et d'atteindre un équilibre entre les émissions dues aux activités humaines et celles absorbées par les puits de carbone, forêts, océans ou techniques de captage de CO2. L'océan en particulier est un puits de carbone majeur pour la planète, surtout les eaux froides polaires dans lesquelles le CO2 est le plus soluble, mais de moins en moins avec leur acidification par le CO2. C'est un petit extrait d'une plaquette vraiment intéressante que je vous recommande. Le titre, c'est « Beauté oblige, écologie et dignité ».